Du lièvre ou de la tortue, du lierre ou de la laitue, qui parviendra en premier à la ligne d'arrivée? Si le végétal est affublé d'une qualité d'immobilité, sachez que tout jardinier saura vous prouver combien cela est erroné. Après tout, bouger n'est finalement qu'une perception du monde dont la clé est le temps. Le cycle des saisons est marqué par des disparitions et des résurrections végétales, de nouvelles extensions et des élans vers d'autres cieux, d'autres espaces comme ces fleurs fugaces, chaque année au rendez-vous, et toujours plus nombreuses ou plus distantes de leur point de départ. Le floristique n'est finalement pas si statique, et nous allons agiter la question dans cette nouvelle émission.
Urbaflore, ce mois-ci Urbaflore, c'est l'émission du Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, animée par Jérôme Garcia. Bonjour Jérôme.
Bonjour Lisa, bonjour à tous.
Aujourd'hui, c'est quand le végétal se fait la malle. On va parler des mouvements internes phytobiologiques, des mouvements subis des végétaux, du mouvement végétal et de la perception humaine. C'est par ça qu'on va commencer après, comme chaque mois, une définition, le mouvement.
Oui. Mouvement, ça vient du latin movimentum, qui vient du verbe movere, qui veut dire remuer. Donc c'est l'action par laquelle un corps ou une de ses parties passe d'un lieu à un autre ou d'une place à une autre.
Le mouvement fait appel à notre vision, à notre mémoire et à une notion de vitesse. Le mouvement végétal et perception humaine, ça va très lentement.
Effectivement, je voulais aborder cette question du mouvement à travers finalement notre perception animale du règne végétal et mettre en avant cette notion donc de vitesse de croissance, vitesse de propulsion, vitesse d'occupation du terrain par les végétaux, qui fait appel à une unité de distance, mais aussi de temps. Et le temps, c'est un peu la clé du mouvement chez le végétal. Finalement, il y a beaucoup de mouvements qui sont à l'échelle de choses infimes, presque invisibles, ou alors qui sont internes au végétal. Par exemple, on a déjà parlé des stomates qui s'ouvrent et qui se ferment pour faire passer les gaz, pour la photosynthèse, pour la circulation de la sève. Donc ça, c'est déjà un premier mouvement chez le végétal. C'est lié à du transport. Il y a aussi une notion de transport de l'eau et des minéraux qui se fait à un niveau cellulaire ou à travers les flux de sève. Et puis, on a des mouvements aussi chez le végétal qui sont rapides, assez rapides à très rapides. Si on considère par exemple la croissance du bambou au printemps, c'est une croissance qui correspond à, pour certaines espèces en tout cas, pas toutes, à environ 4 cm par heure. En tout cas dans la journée, ça correspond à une croissance d'un mètre. Donc d'un jour à l'autre, vous avez votre bambou qui pousse, c'est très facilement visible. Et puis il y a des plantes qui ont des mouvements ou qui réagissent à des stimuli extérieurs comme la sensitive, l'espèce c'est Mimosa pudica, qui a la particularité, dès qu'on la touche, hein, vous pouvez trouver ça en jardinerie, mais ça pousse aussi en milieu tropical, dès que vous touchez la feuille, elle se replie presque instantanément en un dixième de seconde, quoi. Vous avez également des plantes carnivores particulières qui utilisent le mouvement pour capturer des insectes. Il y a la dionée aussi, pareil, espèce plutôt tropicale qu'on va aussi trouver en jardinerie, dont le mouvement se fait en 1/30 de seconde. Et enfin, la championne, on va dire, du mouvement pour capturer des proies, c'est l'utriculaire, c'est une petite espèce aquatique assez insignifiante comme ça, qui fait des jolies fleurs jaunes au-dessus de l'eau, mais sa partie feuillée et puis ses pièges à insectes, ça se fait sous l'eau, c'est aquatique, et le mouvement se fait à 1/1000 de seconde, donc c'est presque instantané, on n'arrive pas à percevoir ça, il faut des images au ralenti pour pouvoir observer cette capture de petites daphnies ou de petits insectes qu'on va trouver dans l'eau. Et puis on a des mouvements qui sont lents à très lents, on a la drosera, qui est une autre espèce carnivore, qui pousse sous nos latitudes, dans des milieux humides, dans les tourbières, et l'insecte vient s'engluer sur sa feuille, qui est munie de plein de glandes, et petit à petit, elle va recouvrir l'insecte pour le digérer. On a d'autres mouvements, le rosier. Alors le rosier, vous allez me dire, comment il bouge? Mais en fait, certaines espèces de rosiers, moi je pense à la Rose de France, je l'ai souvent citée dans l'émission parce qu'elle a pas mal de particularités, mais cette espèce-là, elle produit des drageons, c'est-à-dire des tiges souterraines qui font que elle va s'étendre d'année en année et du coup couvrir des surfaces d'autant plus importantes qu'elle se sent bien dans le milieu. Donc c'est une sorte aussi de mouvement par la croissance des tiges et par la production de nouvelles plantes et de nouvelles roses ailleurs. Vous avez des mouvements liés aussi... alors c'est pas des mouvements de marche, hein, c'est pas ce genre de choses, mais ça se passe sur le végétal, c'est des mouvements de cicatrisation après une blessure. La plaie chez certains arbres va se refermer petit à petit et puis vous allez avoir plus qu'une fente à un endroit où il y avait un grand trou sur l'écorce par exemple. Et puis pareil, la dissémination de certaines plantes annuelles. Une année vous allez les trouver sur un espace que vous leur avez dédié, et puis l'année d'après on va les retrouver ailleurs. Donc finalement elles ont bougé d'une certaine façon. Donc voilà, et puis pour voir ces mouvements qui sont finalement très rapides, hein, on va faire appel à du slow motion, des images au ralenti. Et puis pour avoir des mouvements, pour se rendre compte de mouvements très lents, des mouvements des plantes très lents, on va faire appel au contraire à du time-lapse. C'est-à-dire chaque heure ou chaque jour, au même moment, on va prendre une photo et puis on va mettre ces photos bout à bout pour faire comme une espèce de mini-film. Et on va voir les plantes croître, pousser, avoir leurs mouvements en fonction de différents paramètres que j'aborderai par la suite. Et en fait, finalement, le mouvement, c'est une perception humaine et puis c'est l'histoire... d'une connaissance de la physiologie végétale. C'est lié à des mouvements d'eau, de l'osmose, de la turgescence, de la cavitation, et c'est lié aussi à des instabilités mécaniques du végétal, quoi.
La plante, avant de se déplacer, elle bouge elle-même, elle pousse. C'est des mouvements internes, phytobiologiques.
On a vu effectivement que l'homme percevait la plante d'une certaine façon, ses mouvements en tout cas d'une certaine façon. Ces mouvements, ils sont liés à un fonctionnement des tissus, à des organes qui vont avoir donc différentes fonctions, différentes réactions, différents mécanismes. Les mouvements, on les perçoit au travers des différents organes que j'ai déjà évoqués, comme la racine, les tiges et les feuilles, hein, les racines qui vont ancrer le végétal au sol. Les racines qui vont, par les poils, la croissance des apex et la croissance des poils absorbants, s'enfoncer dans le sol, absorber l'eau, les nutriments, se diriger vers les points les plus intéressants en eau, justement, et en substances nutritives. Les tiges qui vont s'élever selon le type de plante herbacée ou les arbres, on le voit bien chaque année qu'il y a une croissance avec un houppier qui va s'étoffer de plus en plus. Et puis, pareil, le mouvement des feuilles. Vous avez des feuilles qui vont avoir tendance à se replier ou au contraire à capter le maximum d'énergie lumineuse en pleine journée. C'est ce qu'on appelle les tropismes. Donc, les différents organes des plantes vont s'orienter en fonction de la gravité, c'est ce qu'on appelle le géotropisme, en fonction d'une énergie lumineuse, c'est le phototropisme, ou de la présence d'eau, c'est l'hydrotropisme. C'est une façon pour le végétal également de se protéger de la prédation. J'ai parlé de la sensitive. Dès qu'on la touche, ses feuilles se s'abaissent, ou en tout cas, il y a un mouvement qui peut s'apparenter presque à un mouvement animal qui peut effrayer l'insecte ou l'herbivore qui va vouloir le brouter. Il y a certaines plantes aussi, à certaines heures de la journée, il fait tellement chaud qu'elles vont adapter la position de leurs feuilles, comme je l'indiquais. Il y a certaines feuilles qui vont aussi se recroqueviller aussi pour se dessécher un peu moins. Il va y avoir aussi des plantes qui vont expulser intentionnellement leur pollen ou leurs graines. On va parler d'autocorie. Il existe aussi le terme de balocorie. En fait, c'est le fait d'expulser les graines de façon intentionnelle. On connaît par exemple la balsamine, ça fait un fruit un fruit ovale en fait. Et dès qu'on touche ce fruit, les graines sont expulsées à plusieurs mètres. C'est une façon aussi de se disséminer qu'ont adopté certaines plantes, dont des plantes exotiques envahissantes. La balsamine de l'Himalaya en fait partie. Elle propulse ses graines à une vitesse de 4 mètres par seconde. Donc c'est quand même assez rapide. Il y a également une plante qui s'appelle le gui, du genévrier. Hein. Ce n'est pas le gui classique qu'on trouve sur les arbres. Il est vraiment lié, inféodé au genévrier, qui propulse ses graines à 22 mètres par seconde. Ça correspond à une vitesse de 80 km à l'heure. La cardamine, alors ça, c'est une espèce... Moi, je sais que dans mon potager, j'ai tendance à l'éliminer. Je m'y prends souvent assez tard. Et quand je l'élimine, eh bien, j'ai tendance à me recevoir des graines sur le visage et parfois dans les yeux. Et je me dis que je suis arrivé un peu trop tard parce que les graines, elles se retrouvent finalement disséminées dans mon potager. Et l'an prochain, j'aurai à faire la même chose. Voilà, on se retrouve aussi dans le même cas de figure avec la pensée sauvage, le genêt, etc. Voilà, ce sont des techniques de mouvement auto-impulsées par la plante. On a également des organes ou des comportements assez spécialisés, spécifiques. Hein, la liane, je pense au liseron ou à l'hypomée, les belles de jour, qui s'enroulent autour d'une tige, qui s'accrochent comme ça, de façon volubile. Avec ce mouvement de rotation, quand on accélère aussi, on dirait qu'elle danse en fait, la tige, elle tourne autour pour essayer de trouver un support sur lequel s'accrocher. J'en parlais tout à l'heure aussi, il y a ce système de drageons qu'ont les rosiers ou d'autres espèces. Les marcottes aussi, c'est simplement une tige qui va se poser un petit peu plus loin, se retrouver au sol et qui va créer un nouvel individu, donc finalement c'est une sorte de mouvement. Les stolons aussi, des fraisiers. C'est une façon pour le fraisier aussi de se déplacer finalement. Voilà, donc on a là des mouvements volontaires, adaptatifs, qui sont programmés génétiquement pour capter la lumière, capter l'eau, les minéraux, capter aussi des partenaires qui vont aider à mieux absorber. Hein. On avait parlé dans une émission des champignons mycorhiziens. Donc c'est pareil, ces mouvements sont là pour faciliter l'entraide entre les individus d'une même espèce ou d'espèces différentes. C'est un mode aussi de survie. Le mouvement, c'est la conquête d'un espace, la conquête de la lumière, une sorte de domination et puis une forme de résistance finalement pour survivre. Et puis comme on l'a vu à travers les graines et le pollen, c'est une façon aussi de se reproduire et se disperser.
Alors ça, c'est pour les mouvements internes à la plante. Il y a aussi la pression du monde extérieur, un mouvement subi quand le végétal se fait la malle. On voit ça juste après la musique dans cette émission Urbafleur, toujours en compagnie de Jérôme Garcia.
risque.
Flore, l'émission du Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, animée chaque mois sur CFM Radio par Jérôme Garcia. Ce mois-ci, c'est Mouvement des végétaux au programme Quand le végétal se fait la malle. On a parlé de ce mouvement et de la perception qu'en ont les humains. On a parlé des mouvements internes à la plante, pousser, grandir, se disperser, se reproduire. Et alors Jérôme, des mouvements subis?
Oui, parce que le végétal, comme vous le savez, il est en constante interaction avec le milieu, avec l'environnement et puis avec d'autres êtres vivants. On a des mouvements naturels qui sont subis, mais qui aident le végétal aussi à s'endurcir, à se disperser, à aller plus loin, à conquérir de nouveaux espaces. Simplement les animaux qui vont transporter les diaspores, c'est-à-dire tous les éléments transportables du végétal, sur leur pelage, sur leur plumage, ou alors qui vont être simplement ingérés pour être déposés un petit peu plus loin. C'est une forme finalement de mouvement et d'adaptation à ce qui existe autour d'eux. Il y a également le vent qui va disséminer les graines, ou l'eau. Ça concerne à la fois donc le pollen, les fruits, les graines ou des fragments de plantes. L'effet du vent aussi va générer un mouvement particulier ou une organisation particulière du végétal. Je pensais aux arbres en drapeau quand vous allez dans le Lauragais depuis Toulouse et que vous vous dirigez vers Carcassonne. Si vous passez dans ce secteur-là, notamment le long de l'autoroute, c'est assez visible, vous avez des pins qui ont une forme particulière qu'on appelle donc une forme en drapeau. C'est le vent qui va conditionner leur croissance et donc leur mouvement. On a la direction du vent, finalement, qui est marquée par le mouvement du végétal. On a aussi l'impact du vent, ça, lors de tempêtes et autres, qui vont se retrouver couchés au sol. Certains vont mourir, mais d'autres vont repartir. Finalement, le végétal, enfin, la plante, l'arbre, va se retrouver un petit peu plus loin. La plante entière peut être transportée aussi par le vent. Je pense à une espèce comme la rose de Jéricho, qui est transportée entière avec ses graines et qui va permettre de déposer les graines un petit peu plus loin. On a aussi l'eau qui va transférer comme ça des banques de graines ou des plantes ou des arbrisseaux ou des boutures de saule un petit peu plus loin le long du ruisseau ou de la berge. Voilà, et puis on a des mouvements liés aux activités humaines, que ce soit des activités, des actions volontaires ou involontaires. On transporte des plantes depuis que l'homme voyage à travers la planète. Ça a généré pas mal d'émerveillements, mais aussi pas mal de problématiques. On a parlé déjà dans une autre émission des plantes exotiques envahissantes. C'est ce mouvement-là, finalement, des végétaux qui n'est pas de leur fait, mais du fait de l'humain, de cette volonté d'exotisme. Voilà, ont été transplantés à la fois des plantes, des graines, des fruits. L'homme a aussi sélectionné des végétaux avec des mouvements, des fois plus rapides que d'autres. Donc il y a simplement une sélection naturelle qui va faire que certains végétaux vont pousser plus vite, plus rapidement que d'autres. Donc c'est une façon de sélectionner du mouvement chez le végétal. C'est intéressant finalement cette approche du mouvement chez le végétal, mais on peut se poser la question aussi dans Urbaflore, dans ce programme finalement de veille sur les populations, des populations potentiellement menacées aux abords des grandes aires urbaines, liées à des activités humaines. Qu'est-ce que le mouvement vient faire là? Ben en fait, le mouvement, comme je l'ai expliqué, c'est des populations qui sont dans un perpétuel changement, avec notamment des espèces annuelles qui vont peut-être bouger d'un site à l'autre, d'une zone à l'autre de la parcelle. Et Urbaflore est là pour déterminer comment les végétaux bougent sur la parcelle, en particulier les espèces annuelles. Ça permet de faire un suivi, ce qu'on appelle un suivi démographique. Ça permet également d'étudier les dynamiques, par exemple, de fermeture des milieux qui vont contribuer à la régression des espèces que l'on suit dans le cadre de ce programme. La dynamique de fermeture du milieu, c'est simplement des végétaux plus concurrentiels qui vont prendre de plus en plus de place et qui vont faire qu'il y a, pour des espèces qui aiment la lumière, eh bien, qu'il y a de moins en moins de lumière. Donc ces espèces-là de lumière vont avoir tendance à disparaître sous l'ombrage des arbres, par exemple. C'est aussi, Urbaflore et le mouvement, la capacité qu'ont les végétaux à réoccuper un espace après une perturbation ou une dégradation. Donc, ça fait partie aussi du programme que de suivre cette capacité-là de réoccupation de l'espace, cette capacité de résilience, de reprise aussi. Comment une espèce comme la rose de France, une fois qu'on a fait une tranchée ou qu'on aura curé un fossé dans lequel elle pousse, comment la plante va être en capacité d'émettre des drageons pour réoccuper cet espace qui a été perturbé. Et puis, Urbaflore, c'est aussi, et dans mon quotidien de chargé de conservation, c'est aussi sensibiliser à ce qu'est un végétal et aux variations spatiales et temporelles. La plante, le végétal, c'est à considérer sur le temps long. Dans des dossiers de dérogation sur lesquels je peux émettre un avis sur un certain nombre de mesures, il y a des suivis qui sont proposés suite à des transplantations ou suite à des perturbations ou pour évaluer un impact qu'on a du mal à cerner. C'est pas une étude qui se fait sur un an ou sur deux ans, c'est des études qui peuvent se faire jusqu'à 20 ans. Donc, parce qu'on a conscience dans ces études-là que la réaction du végétal par rapport à une intervention humaine, ça se fait dans le temps. On prend quelques minutes pour couper un arbre qui a mis plusieurs centaines d'années à pousser. Donc je pense que ça permet d'ancrer les choses dans les esprits.
du mouvement chez les végétaux dans cette émission Urbaflore aujourd'hui que Jérôme Garcia, le chargé de conservation au Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, va conclure.
Alors, je l'ai dit en introduction, mais comme je l'ai dit, j'allais revenir dessus, j'en ai parlé encore tout à l'heure, mais la notion de temps, elle est centrale, elle est vraiment centrale pour appréhender notre perception animale du mouvement végétal. Cette notion d'évolution temporelle et spatiale des plantes, elle est perceptible au travers du simple passage des saisons, de notre rapport au jardin, au potager, au verger, à la forêt, à son entretien, à son épanouissement, à sa contemplation. Alors, dans une société de l'accélération, réapprenons à regarder le vert, à se poser, à respirer, et acceptons le temps des plantes et laissons-les s'exprimer comme elles le font depuis la nuit des temps. Jean-Baptiste de Lamarck, qui est un naturaliste du début du 19e siècle, disait « Dans tout ce que la nature opère, elle ne fait rien brusquement. »
On se retrouve le mois prochain pour cette émission Urbaflore. Elle est aussi à retrouver en podcast sur le site de CFM Radio, cfmradio.fr. Jérôme, au mois prochain.
À bientôt, au mois prochain, Lisa. Merci.